RFI 9h30, à Paris 7h30, en temps universel. Un nouveau journal avec vous, Sébastien Duhamel.
Et de vives réactions en Guinée, tout d'abord. Certains font part de leur choc, de leur incompréhension. D'autres se félicitent de la grâce présidentielle accordée à l'ex-chef de junte Moussa Dadis Camara. Condamné pour crime contre l'humanité, il est libre depuis vendredi soir. Le coup d'envoi officiel de la campagne électorale hier au Gabon. Elle emmènera les électeurs et les 8 candidats jusqu'à la présidentielle du 12 avril. Des changements très observés, très remarqués en cette année électorale au Cameroun. Des récentes nominations au sein du comité central du RDPC, le parti du président Paul Biya. 20 000 réfugiés centrafricains qui rentrent volontairement dans leur pays. Une avancée pour le Haut Commissariat des Nations Unies que vous entendrez dans ce journal. Et puis, une alerte à pointe noire au Congo-Brazzaville. Une entreprise aurait laissé des matériaux de construction sans protection. Des récentes pluies les ont transformés en coulées de boue. Résultat des habitations sinistrées dans le quartier 418. Il a été libéré dès vendredi soir en Guinée et les images de sa sortie de prison ont fait la une des JT hier soir. Moussa Dadis Camara a donc bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le général Mamadi Doumbouya, militaire à la tête d'une junte entre 2008 et 2009. Moussa Dadis Camara purgeait actuellement une peine de 20 ans de prison après sa condamnation en juillet dernier pour crime contre l'humanité. Ce crime, le massacre d'au moins 156 opposants réunis dans un stade de la capitale Conakry. Et si ses proches se félicitent aujourd'hui de sa libération, en revanche, du côté de ceux qui se sont battus pendant des années pour obtenir justice, c'est le choc et l'incompréhension, à l'image des membres de la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, dont Drissa Traoré est le secrétaire général, lui qui était également un des avocats des victimes du massacre du 28 septembre 2009.
C'est déjà une surprise et une incompréhension. Parce que beaucoup d'efforts ont été faits pour que le procès puisse se tenir, un procès hors norme, un procès où la Guinée a montré que sa justice pouvait mener un procès de telle envergure. Une décision a été rendue et la responsabilité du capitaine Dadis Camara a été retenue pour crime contre l'humanité et aboutit juste après ça, alors qu'il y a des appels à une grâce. Pour nous, c'est une totale incompréhension et vraiment, nous ne comprenons pas qu'on puisse arriver à cette décision en ce moment en tout cas précis. Nous comprenons que le chef de l'État guinéen, en prenant la décision que le gouvernement allait supporter l'indemnisation des victimes, voulait nous faire passer cette pilule-là, la pilule de la grâce. Nous pensons que également cette grâce vient mettre à mal et à néant tous les gros efforts fait aussi bien par les victimes, les organisations comme l'OGDH, AVIPA, la FIDH, pour lutter contre l'impunité. Et aujourd'hui, ça vient remettre en cause tout cela.
La réaction de Drissa Traoré de la FIDH en Guinée. Réaction donc, je vous le rappelle, après la libération de Moussa Dadis Camara. C'est parti pour un peu moins de 2 semaines au Gabon. La campagne électorale a officiellement débuté hier dans la perspective de la présidentielle du 12 avril qui est censée refermer la transition. 8 candidats engagés dans cette course. C'était donc hier pour eux le temps des premiers meetings, des premiers rendez-vous avec les électeurs gabonais. À commencer par le rassemblement organisé dans un stade autour du candidat donné favori par les observateurs, Brice Clotaire-Oligui Nguema, qui a justement dirigé la transition depuis qu'il a chassé Ali Bongo du pouvoir en août 2023. À Libreville, un reportage d'Yves Laurent Goma.
Je vous remercie. Maximum d'applaudissements.
Les grands moyens ont été déployés au stade de l'Amitié dans le nord de Libreville. Les gradins remplis pour accueillir le président de la transition, arrivé sur scène comme une rockstar, en compagnie de son épouse Zita et de leurs enfants. Après quelques pas de danse, Brice Clotaire-Oligui Nguema a listé ses promesses de campagne.
Nous poursuivrons notre lutte contre le chômage. Nous achèverons les travaux de la trans-gabonaise. Nous réélirons l'ensemble des capitales provinciales par des voies bitumées. Et nous poursuivrons de transformer nos matières premières sur place.
Des promesses qui ont séduit ses partisans.
Bien évidemment, je vais le voter. Cash.
Le Gabon, c'est un Gabon meilleur avec lui.
Les actes parlent d'eux-mêmes. On va le voter cash.
Il va faire un score à la soviétique.
La campagne a aussi démarré pour Alain-Claude Bilié-Binzé. Il a rencontré des électeurs dans les quartiers pauvres de la capitale. Le docteur Iloko Boussiengui a animé un meeting dans une salle de Libreville. Joseph Laponcé, lui, a choisi d'aller prier alors qu'Alain Simplice Bungueres a lancé sa campagne à Bifoun, une ville carrefour de l'intérieur du Gabon. Yves-Laurent Gomard, Libreville. RFI.
Une année 2025 qui sera électorale au Cameroun également. La présidentielle est notamment prévue en octobre prochain. Et en attendant, eh bien, il y a des mouvements remarqués au sein du RDPC, le parti du président Biya, avec des nominations au comité central, l'instance décisionnelle de la formation. Alors, à l'approche de l'échéance électorale, à l'heure où le débat sur la succession du chef de l'État âgé de 92 ans gagne du terrain dans l'espace public, tout le monde scrute de près ces changements au sein du RDPC. Et pour le politologue Michel Oyane, professeur d'université, il y a en effet des points intéressants à soulever.
Il y a quand même certains grands absents qui brillent par leur non-présence sur cette liste. On peut par exemple remarquer qu'il n'y a pas le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il n'y a pas aussi le ministre directeur du cabinet civil. Alors, est-ce que l'absence de ces noms signifie que ces personnes sont d'une certaine manière désavouées par le président de la République? Je pense qu'il faut se garder de toute analyse tendancieuse qui consisterait à voir les choses ainsi. Parce que, si vous voulez, le système politique camerounais est davantage un système bureaucratique, où la présence à une instance décisionnelle d'un parti politique ne signifie pas que vous avez tant que ça un poids politique. Il faut se rappeler de la situation du président Biya lui-même lorsqu'il devenait président de la République. Il n'était pas aussi investi que cela dans l'Union nationale camerounaise, l'UNC, qui était alors le parti unique. Donc, les personnalités qui n'ont pas été associées lors des dernières nominations ne doivent pas être considérées comme étant bannies de la scène politique ou même étant ignorées d'une éventuelle succession.
L'analyse au Cameroun du politologue Michel Oyane. Une promesse du général Al-Bourhan qui annonçait cette semaine au Soudan la reprise totale de Khartoum par l'armée. Il affirmait hier que la guerre face aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti ne s'arrêterait que lorsque ces derniers baisseraient les armes. Pour mémoire, en face, les FSR affirmaient également cette semaine qu'il n'y aura pas de reddition de leur part. Cette guerre au Soudan entrera le mois prochain dans sa troisième année. Au Soudan du Sud voisin, après l'arrestation du vice-président Riek Machar cette semaine par les forces de sécurité du président Salva Kiir, les appels au maintien de la paix se multiplient. Hier, lancé notamment par le cardinal Stephen Ameyou, archevêque du Soudan du Sud, il s'est exprimé au nom de la conférence des évêques du Soudan et du Soudan du Sud. Il a rappelé les mots du pape François lors de sa visite à Juba en février 2023. Il avait alors imploré les leaders du pays à mettre un terme au conflit et faire la paix. La lutte contre la résurgence du groupe État islamique en Somalie, avec de nouvelles frappes américaines menées dans la région semi-autonome du Puntland, annonce de l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, qui affirme avoir tué de nombreux combattants. Insatisfait si du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il concerne la Centrafrique et le retour volontaire de quelques 20 000 réfugiés qui avaient fui hors des frontières du pays, vers le Cameroun, vers la RDC ou le Congo-Brazzaville. Et leur retour, eh bien, c'est la plus grande réussite pour le HCR depuis le début d'un programme sur place en Centrafrique en 2017. Victoire rendue possible par l'amélioration de la sécurité dans les zones de retour, évidemment, mais aussi grâce à la mise en place en 2023 d'une plateforme d'appui pour les investissements dans les infrastructures sanitaires, scolaires, dans l'accès à l'eau ou encore le logement. Et cela porte donc ses fruits, comme nous le relate Glora Ramazani, chargée des relations extérieures du HCR à Bangui.
Jusque-là, en fin 2023, la moyenne de nombre de rapatriés nageait entre 6 et 8 000 personnes, et donc le rapatriement était assez lent. Jusqu'en fin 2023, il y avait environ 700 000 réfugiés centrafricains dans les pays voisins, et au rythme de 8 000 personnes, cela nous aurait pris plus de 100 ans à rapatrier les personnes. Grâce à la plateforme et aux activités qui sont en train d'être mises en œuvre sur terrain, notamment à travers ce que nous appelons les pôles de développement. À la fin 2024, nous avons rapatrié à peu près 20 000 personnes, et pour 2025, notre objectif est de pouvoir atteindre 40 000 personnes qui pourront rentrer. Et dans les planifications que nous avons, c'est d'ici 2028 à rapatrier au moins 300 000 réfugiés centrafricains, donc presque la moitié de ceux qui se retrouvent encore en exil. Mais cela nécessite en fait les moyens, nécessite des investissements importants.
Glora Ramazani, chargée des relations extérieures du HCR en Centrafrique. Au Burkina Faso, un lourd bilan, une cinquantaine de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie ont été tués dans l'attaque de leur base vendredi. Un groupe armé terroriste a pris d'assaut le camp militaire de la ville de Diapaga, situé dans la région de l'Est. Après avoir récupéré une partie de l'armement et des munitions, les assaillants ont mis le feu au reste du matériel. Ce samedi, hier, des tirs d'obus ont également visé la ville selon plusieurs témoins sur place. Cette alerte à présent au Congo-Brazzaville, lancée par une organisation de la société civile, le Centre d'Action pour le Développement. Il braque les projecteurs sur la situation des habitants du quartier 418, dans le 5e arrondissement de Pointe-Noire. Près de 130 personnes affirment que leur logement y a été sinistré en raison d'une négligence d'une entreprise de construction, à savoir la Socofran, qui est en charge de travaux sur une grande avenue de la ville et qui aurait laissé des matériaux sans protection. Or, des pluies diluviennes sont tombées le week-end dernier et les ont transformées en coulées de boue qui a pénétré jusqu'au sein des habitations concernées. C'est ce que déplore Trésor Nzila, le directeur exécutif du Centre d'Action pour le Développement.
La société a commencé les travaux en pleine saison de pluie. Avec la négligence que nous avons pu constater, l'abandon des travaux, la société aurait dû prendre des mesures pour s'assurer que la terre rassemblée dans le quartier devant les domiciles ne puisse pas envahir les maisons. Il y a eu une mauvaise évaluation de la qualité du sol, la non prise en compte des facteurs climatiques, parce qu'on ne peut pas engager de tels travaux en pleine saison de pluie et ne pas prendre des mesures pour éviter à ce que les familles puissent être en difficulté. Une semaine après cette situation, nous constatons l'absence de réaction de la part des autorités, ce que nous condamnons. Cette passivité, cette inaction n'est pas du tout acceptable. Nous demandons donc aux autorités congolaises d'agir rapidement sans tarder, notamment d'apporter l'assistance qu'il faut.
L'alerte et l'appel de Trésor Nzila au Congo-Brazzaville. Allez, avant de vous laisser avec RFI Matin, un mot sur cette fête traditionnelle à Madagascar. Le nouvel an malgache qui est célébré ce week-end. Les descendants des grandes familles royales se sont réunis hier à Antananarive pour le célébrer. Chose promise, chose due, votre matinale continue avec Julien Coquelle-Rohème.